Chapitre 5. Les Goldman de Baltimore. Miami, Floride. 24 avril 2010. Sur la route, je reçus un appel de ma mère.
« Alors, mon chéri, comment étaient tes vacances ?»«
Extra. »«
Tu étais seul ?»«
Oui. »«
J'espère que tu mens à ta mère et que tu étais en compagnie d'une charmante jeune femme qui t'a mis de la crème solaire sur le dos et qui te donnera bientôt des enfants. »« Tu es à New York ? » Tu veux venir dîner à la maison ce soir?
J'ai fait un arrêt par la Floride, maman. Je suis en route pour aller rendre visite à oncle Saul. Après un silence désapprobateur, ma mère me dit
« Ces séjours en Floride ne sont pas bons pour toi. Ils ne font que te replonger dans le passé et ce qui est arrivé à tes cousins. »
J'eus envie de lui répondre que j'en avais peut-être besoin, mais je préférais couper court. « Ne t'inquiète pas, maman. Je rentre dans quelques jours. Je t'appellerai depuis New York. » À peine eus-je raccroché que mon téléphone sonna à nouveau. Comme je l'avais relié au système sans fil de la voiture, je décrochai sans voir le numéro entrant. «
Maman ?»
dis-je en pensant qu'elle avait oublié de mentionner quelque chose.
« Non, » répondit la voix de mon éditeur Roy Barnaski. « Mais vous pouvez m'appeler maman si ça vous chante.
Ah, »« Pardonnez-moi Roy, je suis sur la route, j'ai répondu sans vérifier le numéro. »«
C'est vous le numéro, Goldman. Dites-moi que vous êtes à New York. On dîne ce soir chez Pierre ?»
Je suis en Floride.
En Floride?
Se lamenta Roy.
Goldman, votre bougeotte est insupportable.
Et j'ai eu besoin de prendre un peu le large.
Des soucis?
Peine de cœur.
Ça tombe bien, j'ai un excellent remède. $2 millions.
Pour l'adaptation de la vérité sur l'affaire Harry Kéber?
Oui.
C'est non, je vous l'ai dit, je n'ai aucune envie d'en faire un film.
Oh, vous êtes insupportable, Goldman. Qui dit non à $2 millions?
Moi. Comme je renvoyais Barnaski à l'adage selon lequel la richesse ne fait pas le bonheur, il me répondit
« La pauvreté non plus !»
Je lui raccrochai au nez. À Coconut Grove, oncle Saul m'attendait sous le porche de sa petite maison. Nous échangeâmes une longue accolade. Je le trouvais amaigri. Sa barbe, qu'il avait laissée pousser depuis le drame, s'était épaissie. Oncle Saul avait tout eu et tout perdu. Quand je le regardais, je voyais encore le grand avocat de Baltimore, entouré des signes de sa réussite. Son luxueux manoir du quartier d'Oak Park, sa maison d'été dans les Hamptons, son appartement d'hiver dans une résidence haut de gamme de Miami. En réalité, il était aujourd'hui un homme seul, dont l'unique possession était ce pavillon en planches acquis 4 ans plus tôt avec ce qui lui restait d'économie. Il vivait chichement en travaillant comme manutentionnaire dans un supermarché de Coral Gables où il rangeait les achats des clients dans des sacs en papier après leur passage en caisse. La maison de Coconut Grove me plaisait beaucoup. J'aimais l'atmosphère paisible qui y régnait, en dépit de tout ce que mon oncle avait traversé. Nous passâmes une bonne partie de l'après-midi sur sa terrasse, à l'ombre des manguiers et des avocatiers.
Hier soir, j'ai retrouvé par hasard cette photo,
dis-je à oncle Saul en lui montrant le cliché. L'image datait de l'apogée des Goldman de Baltimore. Oncle Saul observa attentivement la photo, puis il eut ces mots, dont je ne suis pas s'il les adressait à moi ou à lui-même.
Le piège de l'argent, Marcus, c'est qu'il peut acheter toutes les sensations, mais jamais de véritables sentiments. Il peut donner l'illusion d'être heureux sans l'être vraiment, d'être aimé sans l'être réellement. L'argent peut acheter un toit, mais pas la sérénité d'un chez-soi.
Il fit glisser son doigt sur les visages de ceux qui avaient été les siens. Je me demandais quels souvenirs remontaient en lui à ce moment précis. Il arrêta le bout de son index sur celle qui avait été son épouse et qu'il avait aimée follement, ma tante Anita.
« Elle était tellement belle, » murmurai-je. « Elle était merveilleuse. »
ajouta-t-il. Au fond, dis-je, c'est ce que je recherche chez une femme.
Qu'elle soit à l'image de tante Anita?
Plutôt que nous formions, elle et moi, un couple tel que le vôtre. Je m'arrêtai net, mal à l'aise. Oncle Saul se chargea de rectifier pour moi.
Tu veux dire, avant le final tragique?
Mais tu vois ce que je voulais dire, oncle Saul. Désolé, je
ne t'en fais pas.
Nous ne parlâmes plus d'elle. Mais cette nuit-là, dans la chambre d'amis où je m'étais installé, tante Anita habitait mon esprit.
Les yeux fixés sur cette photo, je restais longtemps éveillé. Le sommeil me fuyait. Il faisait une chaleur de four et la climatisation marchait mal. J'étais assailli par tant de souvenirs. Au cœur de la nuit, je me retrouvais à la cuisine. Et ce moment ne fut pas sans me rappeler mes visites au Goldman de Baltimore. Baltimore, Maryland, septembre 1995. Il était 5 heures du matin lorsque la petite montre réveil que je portais au poignet se mit à sonner doucement. D'un geste réflexe, je coupai l'alarme pour ne pas réveiller mes cousins Hillel et Woody qui dormaient dans la même pièce que moi. C'était le week-end de Labor Day, et comme pour tous les congés scolaires, j'étais venu chez les Goldman de Baltimore. Chaque fois, c'était le même émerveillement d'être parmi eux, le même bonheur de devenir, le temps d'un week-end, un membre de cette famille qui me semblait si parfaite. Mon arrivée là-bas suivait toujours le même rituel. Tante Anita venait me chercher à la gare de Baltimore. Toute ma vie, je garderai le souvenir ému de sa silhouette qui m'attendait sur le quai. La beauté de son visage, la douceur de ses traits, sa façon de me serrer dans ses bras, l'odeur de son parfum. Tante Anita me ramenait ensuite jusque chez eux, dans leur immense maison d'Oak Park, un quartier résidentiel huppé où tout me semblait plus beau et plus impressionnant qu'ailleurs. Les arbres, les trottoirs, les promeneurs, les portails. Là-bas, je retrouvais ceux que je considérais comme les frères que la vie n'avait jamais voulu me donner, Woody et Hillel. Et l'un des hommes qui, avec Harry Kébert, eut le plus d'influence sur moi, mon oncle Saul. Toujours beau, élégant, de bonne humeur et spirituel. Mes séjours à Oak Park me semblaient à chaque fois trop courts. Pour ne pas gaspiller ce temps précieux, je me réveillais à l'aube. Je rejoignais la cuisine sans bruit. Je me comportais en familier des lieux. Je pressais quelques oranges, j'allumais la machine à café filtre, puis j'allais chercher le journal, livré tous les jours au petit matin devant la porte. Je m'installais ensuite au comptoir de la cuisine, et dépliant l'exemplaire du Baltimore Sun que je venais de ramasser, j'en parcourais les grandes lignes en mangeant des toasts au beurre de cacahuète. Et je m'imaginais vivre ici pour toujours. Le bonheur de ces matins-là, c'était de partager un moment privilégié avec Tante Anita qui était une lève-tôt. Elle me rejoignait dans la cuisine, passait sa main dans mes cheveux et me gratifiait d'un tendre « Bonjour Marcus, mon chéri ». Elle se servait une tasse de café et s'installait au comptoir, à côté de moi, piochant parmi les cahiers disponibles du journal. Parfois, elle s'attribuait pour mon plus grand bonheur l'une de mes tartines. Sa lecture terminée, Tante Anita se mettait à préparer des pancakes ou un gâteau pour le petit déjeuner. Je n'ai jamais été un grand cuisinier et j'ai toujours admiré sa capacité à élaborer sans recette toutes sortes de pâtisseries. Il y en a une très facile qu'elle finit par m'apprendre, son célèbre gâteau à la banane, qui ne nécessite que de mélanger de la farine, des œufs, une pointe de sel et surtout des bananes bien mûres. Le jour s'était levé sur Coconut Grove lorsque Oncle Saul débarqua dans sa petite cuisine, attiré par l'odeur du gâteau à la banane qui sortait du four.
« C'est la recette de ta tante ?» me demanda-t-il l'œil pétillant.
« Le seul gâteau que je sache faire, » répondis-je. Il éclata de rire et se servit une tasse de café.
« Debout depuis longtemps ?»«
Non, mentis-je, j'ai dormi comme un loir. » Il s'assit à table avec une tranche de gâteau et sa tasse, puis il fit ce que je l'avais toujours vu faire à Oak Park, il trempa le coin de sa tranche de gâteau dans son café. « Je me suis fait des amis grâce à ce gâteau », lui racontai-je alors.
« Qui ça ?»«
Le flic avec qui j'ai enquêté sur l'affaire Harry Kébert et sa famille, des gens très sympathiques. » Coïncidence, hasard ou signe du destin, j'allais justement retrouver les gars à Hollywood ce jour-là. À l'heure du déjeuner, comme j'étais en train de me promener sur les réseaux sociaux, je tombai sur une photo que Malia Gaalwood venait de publier sur Facebook. On y voyait toute sa famille déjeunant à la terrasse du Cheesecake Factory du centre commercial d'Aventura au nord de Miami. Je téléphonai aussitôt à Perry. Quand il décrocha, il mâchait encore. « Sergent, lui demandai-je d'emblée, comment est votre steak ? Et avez-vous essayé leurs beignets au fromage ? Ils sont à tomber. »
L'écrivain ? Me répondit-il d'un ton interloqué. Comment diable pouvez-vous savoir que...
La magie des réseaux sociaux, sergent. Il s'était mis à maugréer contre sa fille avant de revenir à moi avec le ton qu'il me réservait habituellement, c'est-à-dire une mauvaise humeur feinte.
Avez-vous autre chose à m'annoncer que ce que je sais déjà, à savoir que je mange un steak ?
Surtout ne bougez pas, sergent, j'arrive. Je rejoignis les gars à Lowood juste à temps pour le dessert. Ce fut un bonheur immense de les retrouver. Les gars à Lowood avaient saisi l'occasion des vacances de printemps pour passer quelques jours en Floride.
Notre séjour aux Bahamas nous a inspiré, l'écrivain, me confia Galwood. Nous avions envie de soleil.
Le déjeuner terminé, les filles voulaient faire les boutiques. J'accompagnais toute la petite famille dans les allées du centre commercial, puis lorsque Galwood en eut assez, nous bûmes un café tous les deux.
Je suis inquiet pour vous, l'écrivain, me dit alors Galwood.
Inquiet pour moi?
Et d'abord, je vous retrouve à Aurora, chez Harry Kébert, puis en Floride, chez votre oncle.
Et alors?
Et alors, vous n'êtes jamais chez vous? Vous n'y êtes pas bien?
Et si, parfaitement.
Quelqu'un qui se sent bien chez lui ne passe pas son temps à s'incruster chez les autres.
Il me jeta son regard de flic, ce regard qui signifiait « Je sais tout, il est temps de passer aux aveux ». Ce regard qui invitait à soulager sa conscience et qui avait dû faire avouer des générations de criminels. Je me décidai donc à lui parler de Reagan et de mon séjour raté à Harbor Island. Il m'écouta comme il savait si bien le faire. Tel était Perry Galwood, le genre de type qui, au moment où j'aspirais à parler à quelqu'un, apparaissait comme par enchantement. Celui qui vous prête une oreille attentive, sans jamais juger. Celui à qui je puis dire que je me sentais désespérément seul. Des millions de gens s'endormaient avec moi, mais moi je me réveillais sans personne. Il me témoigna son habituelle sollicitude. J'étais pour ma part à 100 lieues de soupçonner qu'il aurait voulu me parler. Je garde de cette journée avec les Galwood un souvenir ému. À leur départ, j'éprouvais un pincement au cœur, comme une douleur, comme si mon inconscient pressentait que je les avais vus au complet pour la dernière fois. Je rentrai à New York. Un mois environ s'écoula sans échanger de nouvelles avec les Galwood. Puis survint ce soir de mai au cours duquel la mort les frappa.